Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 12h pile à Kinshasa, voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Les chefs d'État de la SADC s'engagent à accompagner et soutenir la RDC dans la consolidation de la démocratie. C'est ce qui ressort en tout cas de leur sommet qui s'est achevé hier à Luanda. Au Kassai, deux détenus de la prison d'Ilebo sont décédés du choléra. Le directeur attribue ce drame aux mauvaises conditions carcérales de cette prison qui date de l'époque coloniale. L'exercice des libertés publiques, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation organisée hier mardi à Kisangani par le Bureau conjoint de l'ONU en droits de l'homme à l'intention de la société civile, des étudiants et des autorités locales. C'est le dossier de ce midi. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika Alengoy est sur les manettes. De la politique pour commencer votre journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC réaffirment leur volonté d'accompagner et de soutenir la RDC dans la consolidation de la démocratie. Et sur le plan sécuritaire, ils se disent préoccupés par la présence des rebelles ougandais de l'ADF et des FDLR dans l'est du pays où ils sèment terreur et désolation. Cette prise de position est contenue dans le communiqué final du sommet tenu hier à Luanda, la capitale angolaise. Plus de précisions avec vous, Pele Kipelamondo.
Pour mettre un terme à l'activisme des forces négatives dans l'est de la RDC, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC lancent un appel pour une action régionale contre ces forces négatives, comme il a été souligné auparavant dans plusieurs communiqués des différents sommets. Toujours sur le plan sécuritaire, ils saluent l'engagement du secrétaire général des Nations Unies et les rôles de la MONUSCO pour la stabilité de la RDC, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'agissant du processus électoral, les participants au sommet de Luanda se sont félicités de voir le président Joseph Kabila honorer son engagement à respecter scrupuleusement la Constitution au terme de son second mandat. Selon eux, je les cite, c'est une démonstration claire de sa détermination de placer les intérêts du peuple de la RDC au-dessus de toute autre considération. Fin des citations. Ce sommet a connu la participation notamment de João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola et président de l'organe pour la coopération politique, défense et sécurité de la SADC, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville et président en exercice de la CIRGL et Ali Bongo, président du Gabon et président en exercice de la CIAC. La RDC a été représentée par les ministres des Affaires étrangères, Léonard Che Okutundu.
Merci Pele Kipelamondo pour ces précisions. Les ministres membres du gouvernement s'engagent à soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary. Dans une déclaration faite hier mardi après-midi, les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine se disent satisfaits d'avoir contribué à la paix, à l'harmonie et à la tenue des élections. Ils se félicitent d'avoir soutenu l'alternance politique et le respect de la constitution du pays. D'autres précisions avec leur porte-parole, les propos de Jean Lucien Boussa sont recueillis par Mimi Ngumba Mulongo.
La grande fierté de notre coalition, c'est d'avoir contribué efficacement au processus devant conduire à l'alternance politique pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. Et grâce à la vision progressiste et à la décision du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé de respecter la Constitution et de ne pas se représenter après ses deux mandats. Pour toutes ces raisons, notre coalition s'engage solennellement à soutenir la candidature de M. Emmanuel Ramazani Shadary aux fins de remporter la victoire aux élections présidentielles du 23 décembre 2018 et aux autres scrutins, à savoir les législatives nationales et provinciales. Pour ce faire, la coalition du 18 octobre contribuera à l'élaboration du programme du candidat et du Front commun pour le Congo en rencontrant ainsi dans son projet de société les aspirations profondes de notre peuple. C'est de cette façon et grâce à la vision et aux valeurs que la poursuite de l'œuvre de la réconciliation de notre pays et le bien-être de notre peuple seront assurés. En conséquence, nous restons saisis de toute autre question pertinente nécessitant notre contribution.
De leur côté, les ressortissants de l'ex-province orientale, membres du FCC, ont rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila, hier mardi ici à Kinshasa. Au cours d'une soirée politique, ils ont accueilli le candidat du Front commun pour le Congo, Ramazani Shadary, avec comme recommandation, je cite, la reconstruction et la pacification de la RDC après la présidentielle de décembre prochain. On écoute la secrétaire permanente adjointe du PPRD, élue de Ouamadou. Kamba. Madame Béatrice Loméa est au micro de Jeff Ngoy.
C'est le FCC Province Orientale. Nous sommes allés au-delà du cadre du PPRD, de la majorité. En principe, c'est tous les acteurs qui ont adhéré pour remercier d'abord le chef de l'État, puisque vous savez que c'est un homme qui nous a marqué, puisqu'il va permettre pour la première fois l'alternance politique pacifique par la désignation de son office. Et donc, c'est une occasion pour le remercier et lui renouveler aussi notre attachement à la grande province orientale, mais aussi un moment d'adresser une motion de soutien au candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre, le candidat du FCC, le camarade Emmanuel Ramazan Chadari. Nous avons la conviction qu'avec ses atouts, tout sera mis en œuvre pour qu'il puisse avoir effectivement une victoire éclatante à l'élection du 23 décembre 2018 et ainsi poursuivre avec l'activité de la reconstruction amorcée par le chef de l'État.
Politique encore, sur 936 candidatures reçues dans la province du Sud-Kivu pour la députation nationale, 15% sont des femmes contre 800 candidatures des hommes. Ces statistiques sont retenues par la CENI au BRTC central depuis lundi dernier à la fin de la substitution et ajout. Reste l'étape des contentieux électoraux après la publication officielle des listes provisoires le 24 août prochain. C'est ce qu'annonce le secrétaire exécutif de la CENI Sud-Kivu, Gaudens Maéché, s'est confié à Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Nous sommes arrivés à la réception au traitement de 936 dossiers, 936 candidatures dans toute la province du Sud-Kivu, dont nous pouvons dénombrer 63 femmes et 873 hommes. C'est-à-dire, en termes de pourcentage, nous avons reçu 14,8% des femmes. Pour la ville de Bukavu, nous sommes à 170 dossiers reçus et traités pour 18 femmes et 152 hommes. L'étape qui suit, c'est que nous attendons la période des contentieux. Et cette période ne peut commencer qu'après la publication des listes provisoires des candidats députés nationaux. Or, cette publication des listes provisoires intervient le 24 août.
Il est 12h07 à Kinshasa, ouvrons maintenant une page santé. Au Kasaï, deux détenus de la prison d'Ilebo sont décédés du choléra sur les trois cas enregistrés. Le directeur de cette prison attribue ces décès aux mauvaises conditions carcérales, alors que l'Observatoire congolais des droits humains appelle à sa réhabilitation urgente. À Kananga, Blaise Ndongala.
Le directeur de la prison centrale d'Ilebo indique que ces deux prévenus ont succombé à l'hôpital général de référence où ils étaient admis après avoir été détectés par l'ONG Médecins Sans Frontières. Ils attribuent ces cas de décès, entre autres, aux mauvaises conditions de vie dues notamment à la pénurie de nourriture et l'eau potable dans cet établissement pénitentiaire. Miami Atandele.
Le problème de l'eau, ça pose un grand problème. Les gens peuvent dormir enfermés, mais ils doivent boire. Ils ne boivent pas. Alors, c'est ça les grandes difficultés que je rencontre chez moi. Nous ne sommes pas pris en charge. Nous n'avons pas même fait des comprimés pour soigner les malades.
Pour sa part, le coordonnateur de l'Observatoire congolais des droits humains au Grand Kasaï estime que ces deux cas de décès sont également dus à la promiscuité. Il regrette que les détenus vivent entassés dans des locaux sur les 8 que compte cette prison, car les autres cellules se trouvent dans un état de délabrement avancé. Maître Hubert Ngulanjoko.
Cette prison, une capacité de 250 personnes, aujourd'hui n'utilise que des pavillons pour garder ces prisonniers qui s'entassent à même les sols, sans qui peuvent facilement se contaminer. Et qu'aujourd'hui, il y a cette maladie. Nous voulons que les autorités prennent disposition le plus utile pour épargner les vies de nos compatriotes qui sont en prison.
Sachez que ces deux nouveaux cas portent déjà à 10 les nombres de décès enregistrés depuis janvier dernier à la prison centrale d'Ilebo, de Kananga. Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Et puis, les cas de rougeole sont enregistrés ces jours-ci dans certaines zones de santé de la province du Olomami. Et c'est ce qu'annonce à Radio Okapi le commissaire provincial chargé de la santé. Parmi les stratégies qui sont mises en place pour combattre cette maladie, Eli Muyumbi rassure que toutes les zones de santé ont réactivé rapidement la surveillance à base communautaire. Des mini-campagnes de vaccination sont aussi envisagées dans les secteurs où des cas sont confirmés. Il est joint par Denise Maéo.
Effectivement, dans notre province, il y a des zones de santé qui ont notifié des cas et qui ont procédé au prélèvement et expédition des échantillons. Quelques échantillons nous sont revenus positif pour dire qu'il y a effectivement des cas de rougeole, mais nous avons pu réactiver cette fois-ci la surveillance à base communautaire pour une recherche active des cas. Et non seulement ça, il est prévu une riposte autour des cas pour éviter que nous soyons débordés en termes du nombre des cas et avec des conséquences pouvant arriver. Pour être beaucoup plus précis, nous prenons des dispositions pour déterminer la tranche d'âge qui est beaucoup plus affectée et nous déterminons la cible. Nous prenons 40 à 60 doses et on administre à tous les enfants de cette tranche d'âge, malades ou non malades.
On passe au Congo central où la société civile du secteur de Kakongo, un territoire de Lukula, situé à près de 200 km à l'ouest de Matadi, demande au gouvernement provincial d'envoyer urgemment une équipe dans cette partie de la province. Objectif, échanger avec les autorités angolaises à propos des enlèvements récurrents dont sont victimes ce jour-ci les paysans congolais. Le président de la société civile locale affirme que plus de 50 personnes ont été enlevées la semaine dernière au village de Vévé par des militaires angolais. En réaction à cette préoccupation, un membre du gouvernement provincial a promis de vérifier la nouvelle. À Matadi, une correspondance de Guy Roger Nyampala.
C'est le deuxième enlèvement des Congolais en l'espace d'une semaine, a fait savoir Raphaël Ndundu, président de la société civile de Kakongo. Dernier cas en date, c'était le vendredi 10 août dernier, vers 9h au village VV, dans le secteur de Kakongo. Plus de 68 civils congolais, sans compter les enfants d'environ 3 mois pour certains, ont été déportés vers l'Angola par les forces armées angolaises. Motif, ces Congolais se trouvaient en territoire angolais d'après eux. Ils ont donc interdit aux paysans de ce village de cultiver sur leurs propres terres. Aussitôt arrêtés, ils ont été amenés dans la localité de Kumunu, en territoire angolais dans la province de Cabinda. Après avoir passé la nuit dans les cachots, ces paysans et leurs familles ont été libérés. La société civile de Kakongo déplore le silence des autorités à ces sujets. Aujourd'hui, ces Congolais n'arrivent plus à aller au champ. Notez qu'un autre enlèvement similaire a été également signalé au début de la semaine dernière dans le village Mbakakossi, en territoire de Lukula. Contacté, un conseiller du ministère provincial en charge de l'intérieur du Congo central a déclaré ne pas être informé de cette situation. Il a promis de vérifier. Notez qu'après leur libération, ces personnes ont affirmé n'avoir pas été victimes de tortures ou autres actes de violence. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Faisons un détour par le Nord Kivu où la localité de Kasuo a été reprise hier mardi après-midi par les FARDC. C'est après y avoir délogé les miliciens du NDC rénové de Guidon pendant plus d'une année. Ces deux localités sont situé à 45 km au sud-ouest de Lubero Centre. Le bilan qui a été dressé par le porte-parole des FARDC Sokola 1 fait état de 4 Maïmaï tués, plusieurs autres blessés, et d'un militaire FARDC tué et un autre blessé. À Goma, Denise Lukeso.
Un habitant de Kasuo joint sur place ce mardi témoigne de ce qu'il appelle la libération totale de Kasuo par l'armée vers 9h heure locale. Selon cette source, les éléments du NDC rénové auraient abandonné leur base tard dans la nuit peu avant l'arrivée des FARDC. Ainsi, l'armée a pris le contrôle de Kasuo sans combat après la reprise des Kaeri où il y a eu plusieurs heures d'affrontement. Les porte-parole de Sokola 1 parlent de 4 Maïmaï neutralisés et plusieurs autres blessés. L'armée de son côté a vu un de ses soldats tués et un autre blessé, déplore Makazukai. Dans leur fuite, les miliciens se seraient livrés au pillage des boutiques et du bétail, ajoute-t-il. Quelques jeunes du milieu auraient été aussi pris en otage pour transporter le butin. Les éléments du guidon auraient pris la direction des Fatoua, environ 5 km à l'ouest de Kasuo, c'est à la limite avec les territoires de Walikale. Quant aux habitants qui ont passé la nuit dans la forêt, ils seraient en train de regagner timidement leur village, affirme un membre de la société civile locale. Goma, Denise Luque sur Radio Kapi.
Et dans la province de la Tchopo, un conflit oppose depuis 2 ans maintenant les habitants de Yalokombe à ceux de Yaloué, de localité du territoire d'Opala, située à 260 km au sud-ouest de la ville de Kisangani. Ces conflits se caractérisent par des meurtres, des arrestations, des attaques, des tortures entre les habitants depuis 3 semaines. Pomme des discordes, la gestion de la forêt à Kisangani en celle même à soi.
À l'origine de ces conflits forestiers, déclarent les natifs de Yaloué, le non-respect des cahiers de charges par l'entreprise Boussira Lomami qui exploitait l'huile de palmiers dans une partie de la forêt de Yaloué. Tombée en faillite, Boussira Lomami cède ses actifs et passifs à l'association Inuplaboye qui est contraint par les Yaloué d'honorer le cahier de charges signé avec Boussira Lomami avant d'accéder dans cette forêt pour exploitation. Face à cette résistance, l'entreprise Inuplaboye, dont la plupart des agents sont originaires de Yalokombe, tient à exploiter coûte que coûte cette partie de la forêt de Yaloué, d'où une série d'incursions opérées par les Yalokombe, disent les Yaloué. Le bilan des attaques au cours de ces trois derniers mois fait état de 7 personnes grièvement tabassées, 7 autres prises en otage puis relâchées après 2 jours de torture et 5 autres copieusement passées à tabac et retrouvées dans leurs champs dans l'incapacité de tout mouvement. Enfin, un paysan a été fauché à l'aide d'une arme de chasse. Toutes les victimes sont des ressortissants des Yaloué. L'administrateur du territoire qui confirme les faits déclare avoir déjà adressé un rapport de cette situation à sa hiérarchie. Patrick Lombo compte réunir les notables de ces deux localités ce jeudi afin de tenter de désamorcer la tension qui prévaut dans leur milieu. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
L'actualité de l'étranger, commençons par le Mali où l'opposition accuse la commission électorale de fraude et le représentant de Soumaïla Cissé au sein de cette commission de claquer la porte. Le porte-parole d'Ibrahima Boubacar Keïta a déjà annoncé que son candidat a remporté le second tour. Loin de ces échanges politiques actuels, certains Maliens s'inquiètent de l'après-élection. Une crise post-électorale, c'est ce que craint en tout cas le politologue Djatourou Diawara. Au Soudan, l'opposition rejette en bloc la nomination du président Omar El-Béchir comme candidat de son parti politique à l'élection présidentielle prévue en 2020. La semaine dernière, le parti du Congrès national a annoncé vouloir engager des démarches nécessaires en vue de permettre au président soudanais Omar El-Béchir de se présenter une nouvelle fois. Un projet qui va à l'encontre de la constitution du pays de 2005 qui limite en tout cas le nombre de mandats présidentiels à 2. Enfin, au Brésil, en prison depuis 4 mois, l'ancien président Lula compte être candidat à l'élection présidentielle programmée en octobre prochain. Sa candidature va être déposée le mercredi 15 à Brasilia, mais elle risque fort d'être invalidée.